7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, l'Amérique vous fait-elle encore rêver? Tiens, justement, on en parlait dans le journal il y a quelques minutes. C'est à vous de nous répondre, les voisins. Un an après la victoire du président Biden, qui veut réveiller le rêve américain après les années Trump, ce pays est-il dans le fond encore désirable? Paradis de la consommation, innovation technologique, multiculturalisme, liberté d'entreprendre, de réussir, de se relever aussi des crises successives, notamment celle terriblement violente de 2008. Et puis on verra ce que ça donnera après la pandémie. Ça c'est pour le côté face et pour le côté pile. Une démocratie fragilisée, un pays divisé, miné par les inégalités et pollueur. On va discuter de tout cela avec vous les voisins et les voisines et avec vous Laurie Kenton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'histoire et de la civilisation américaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et vous avez publié l'année dernière « Le rêve américain à l'épreuve de Donald Trump ». Le rêve américain, on en parlera aussi vu de Chine. On sera en ligne avec Stéphane Lagarde quelques semaines après l'inauguration du parc Universal, un parc de loisirs à Pékin, le soft power américain aux portes d'un pouvoir chinois inébranlable. Et puis on verra aussi comment le Brésil rêve de l'Amérique à la faveur de la crise économique, de la pandémie et d'un président qui aime les hamburgers. Et vu de chez vous, les voisins et les voisines, que signifie le rêve américain? Vous avez la parole sur WhatsApp. Vous nous appelez surtout dès maintenant, n'attendez pas la fin de l'émission, au 33 7 64 45 51 41. Je vous lis quelques messages. Laurie Kenton, évidemment, vous pouvez les commenter. Bonheur à 18 ans. Il est étudiant tchadien en sciences économiques à Yaoundé, au Cameroun. Et il nous dit non, les États-Unis d'Amérique ne sont plus aussi puissants parce qu'ils se confrontent maintenant aux autres puissances comme la Russie, la Chine, la Corée du Sud. Mais malgré tout, l'Amérique me fait quand même rêver. Depuis mon enfance, je veux y aller. Pas à cause de leur mode de vie, mais pour réussir, comme Jean-Claude Van Damme, le Belge. Pourquoi pas moi? Et puis il y a Mort aussi qui est à Touba, au Sénégal, et qui dit « Un pays qui a pu élire Donald Trump comme président ne me fait plus vraiment rêver ». Ou encore Franklin, qui a 23 ans, qui est étudiant en ingénierie à Ngaoundéré, dans le nord du Cameroun. Mes cousins sont là-bas. Ils me disent que la vie n'est pas toujours facile, mais qu'avec un boulot, ça va. J'ai appris par la télé que les inégalités sont grandes, mais les États-Unis, c'est aussi un pays de possibilités. Voilà. Et puis, on va donner aussi la parole en direct à un auditeur, Toraï, qui nous appelle de Brazzaville, du Congo-Brazzaville. Bonjour, Toraï.
Oui, bonjour Emmanuel.
Vous avez entendu un peu les messages que j'ai lus d'auditeurs sur le même continent que vous, Toraï?
Oui, j'ai entendu, mais mon avis est tout à fait divergent.
Ouais.
Je ne les partage pas, parce que pour moi, c'est un pays de rêve. Hein. C'est un pays qui est un démon de démocratie, une référence de développement socio-économique de l'Afrique. Et la quasi-totalité des institutions internationales se trouve basée dans ces pays. Mm. Je ne voudrais pas parler aussi de l'aspect tel que les pays offrent aussi des bonnes perspectives, sinon des bonnes opportunités en matière d'emploi. Mmh. Donc pour moi, c'est un pays de rêve.
Un pays de rêve, mais c'est ce que disait finalement Franklin, un pays de possibilités.
Justement.
Ouais. Merci Toraï de nous avoir appelés. Très bonne journée à vous, à Brazzaville, et vous continuez de nous téléphoner. 33 7 64 45 51 41. Laurie Kenton, dans un de ses discours, Barack Obama disait « L'Amérique est la somme de nos rêves. Joe Biden veut réveiller le rêve américain. Trump avait lancé aussi le « Make America Great Again ». Alors, autant de façons différentes de rêver l'Amérique à l'intérieur du pays. Est-ce qu'il y a une façon différente à l'extérieur, à l'intérieur de rêver l'Amérique ?
Oui, et de toute façon, même à l'intérieur et à l'extérieur, il y a différentes façons de rêver l'Amérique. Et ce qu'on disait tout à l'heure, différents auditeurs, sur la question de la possibilité, c'est quelque chose qui nourrit toute l'immigration et le désir d'immigration, pas forcément réalisé depuis le début. Au XVIIIe siècle, on va en Amérique d'Europe parce qu'on pense qu'une vie meilleure est possible. Une vie meilleure parce qu'on sera loin des persécutions, par exemple, ou parce qu'on pourra avoir accès à la terre. Et la terre est infinie. Alors après, la terre, ça se transforme en d'autres façons, mais les immigrés italiens autour de 1900, c'est pareil. Et ils pensent que eux, pourquoi pas, pourraient réussir. Ça n'empêche pas certains, et un certain nombre, hein, de retourner en Italie, parce que finalement, le rêve ne se réalise pas. Mais il y a toujours cette ouverture, cette possibilité qui est une sorte de fil rouge dans l'histoire américaine.
Et puis la puissance économique, réveiller le rêve américain, pour Joe Biden, ce sont de grands travaux d'infrastructure, puisque la Chambre des représentants a voté en faveur d'un énorme programme de construction, de rénovation d'infrastructures qui pèse 1200 milliards de dollars. C'est une somme qui nous semble à nous tous totalement irréelle. Hein. 1200 milliards de dollars destinés aux routes, aux ponts, aux transports publics, aux réseaux d'eau potable. Est-ce que ça témoigne de la puissance financière des États-Unis ou au contraire d'un retard à rattraper finalement ?
Les deux en fait. Et c'est vrai que on dit parfois, c'est Jean-Éric Brana qui parle de la présidence Biden comme le troisième mandat de Barack Obama. Et d'une certaine manière, c'est vrai parce que déjà sous Obama, on constatait déjà le retard qui s'accumulait pour les États-Unis dans tous les domaines des infrastructures. Et c'est vrai que les routes américaines font quand même un peu pitié à voir. Les réseaux d'approvisionnement en eau, etc., enfin, c'est un peu catastrophique. Il n'y a pas de train à grande vitesse. Et donc, c'est vrai que les comparaisons sont de moins en moins flatteuses. Avant, on allait aux États-Unis pour voir le futur. Maintenant, quand on va aux États-Unis, parfois, on est quand même surpris par le côté un peu vieillot des infrastructures, voire carrément dangereux. Il y a beaucoup de ponts qui sont structurellement déficients, des barrages qui sont au bord de s'effondrer, enfin de rompre. Donc c'est vrai que ces travaux sont pharaoniques quand on ajoute le tout parce que les investissements n'ont pas été faits. Donc en fait, on paye d'un coup des décennies de sous-investissement.
Ouais. Joe Biden reconnaît lui-même que les Américains sont dans l'incertitude. Hein. Il cite évidemment la pandémie, l'école, l'emploi, le prix de l'essence. Il y a quand même encore des États qui incarnent véritablement le rêve américain, comme la Californie.
Oui, alors oui et non. C'est-à-dire que dans l'imaginaire, la Californie, c'est Hollywood. Mais Hollywood, c'est à la fois les paillettes, pour ceux qui y arrivent, mais il y a aussi tous les acteurs et actrices qui n'y arrivent pas et qui restent serveurs ou serveuses toute leur vie. La Californie, c'est aussi un des États les plus inégalitaires, où il est terriblement difficile de se loger pour un prix à peu près abordable. L'essence y est plus chère parce que les taxes sur l'essence sont plus chères, donc c'est plus difficile de se déplacer. Donc il y a beaucoup de choses qui sont assez compliquées.
Des embouteillages monstre aussi. Mais
justement, à cause de ce problème des infrastructures routières. Donc tout est lié. Et c'est vrai que, sans parler des incendies de forêt, la vie en Californie n'est pas aussi facile que ça.
Et en 2020, la Californie d'ailleurs a vu sa population diminuer. C'est la première fois depuis qu'on a des statistiques, c'est-à-dire depuis 1900. Il faut qu'on parle des inégalités. C'est un pays des possibilités, un des auditeurs nous le disait, où tous ceux qui réussissent rappellent leurs origines modestes, hein, donc quand c'est le cas, hein, l'ascenseur social, à l'image du nouveau maire démocrate de New York, Eric Adams. On l'écoute.
My mother cleaned houses. Ma mère faisait des ménages, j'ai été plongeur, j'ai été frappé par la police et je me suis retrouvé dans un commissariat, certain que mon avenir était déjà tout tracé. Et maintenant, je vais être la personne en charge de ce commissariat et de tous les autres commissariats de la ville de New York. Nous sommes confrontés à une triple crise, la Covid, la criminalité et le désastre économique. Nous allons donc investir les uns dans les autres. Nous allons soutenir ceux qui se battent pour la garde des enfants, les soins de santé et les logements abordables.
La Covid, la criminalité, la pauvreté, ce qui mine New York avec un taux de chômage qui est deux fois plus élevé qu'au niveau national. Et pourtant, dans le journal, il y a quelques minutes, on l'entendait, les touristes sont de retour. Les touristes sont de retour à la poursuite de ce rêve américain à New York.
Alors, les touristes qui ont un certain pouvoir d'achat,
c'est
on va
sûr.
Dire. Hein, le touriste qu'on entendait qui avait ses habitudes au Met, tout le monde n'a pas ses habitudes au Met.
Au Metropolitan Museum, c'est
voilà,
ça.
On a deux types.
Ou aller voir des comédies musicales hors de prix.
Exactement. On a ce tourisme-là et on a également une autre forme de tourisme, d'une certaine manière, qui est l'immigration. Et le rêve américain se joue sur les deux niveaux.
Est-ce que le retour du plein emploi, tel qu'on l'annonce, peut réduire les inégalités, réparer justement l'ascenseur social jugé en panne par certains, même si, on l'entend, Eric Adams, 61 ans, ancien policier, deuxième afro-américain élu à la mairie de New York, est la preuve de cet ascenseur social?
Alors, il ne faut pas confondre l'anecdotique des grandes tendances. C'est vrai qu'on a plus de chances de réussir quand on est blanc et qu'on vient de la classe moyenne ou de la classe moyenne supérieure, et c'est beaucoup plus compliqué quand on est noir, parce qu'on a de plus en plus de chances d'être élevé dans un foyer monoparental, qui sont la majorité, et dans la pauvreté. 38% des enfants noirs sont sous le seuil de pauvreté aux États-Unis. États-Unis, ce qui est 4 fois plus que pour les enfants blancs. Donc il y a déjà des choses qui, des départs dans la vie qui sont assez, assez différents. Après, c'est assez compliqué de généraliser. Tous les gagnants ont tenté leur chance d'une certaine manière. Mais l'emploi n'est pas forcément un emploi qui va permettre de monter. On peut être coincé dans des petits boulots, et ça va être le cas notamment des gens et des femmes qui sont coincés dans un, voire deux boulots dans la même journée pour réussir à survivre. Donc le plein emploi est aussi une forme de trompe-l'œil. C'est mieux que rien, c'est certain, mais parfois on est coincé dans des boulots qui ne permettent pas de progresser sur l'échelle sociale, et donc ce rêve américain de progression, eh ben, il reste une sorte d'illusion, même quand on a un boulot.
Et d'ailleurs, les statistiques montrent que dans les grandes universités américaines, celles qui mènent justement à des emplois très bien rémunérés, il y a une toute petite minorité d'enfants de familles modestes.
Oui, malgré les bourses, et on remarque par exemple, puisqu'on parlait de la Californie, dans la Silicon Valley, même les employés de la tech qui ont des salaires incroyablement élevés ont du mal à se loger à San Francisco.
Alors écoutez, tout de suite, je vous rappelle notre numéro de téléphone pour nous appeler en direct. 33 7 64 45 51 41. L'Amérique vous fait-elle encore rêver? Écoutez ce message de cet auditeur au Canada. Il est originaire du Cameroun.
Bonjour les voisins, les voisines. Moi, c'est Georges depuis le Canada en Ontario. En fait, c'est pour vous partager ma vision concernant les États-Unis. Donc moi, j'ai beaucoup perdu d'estime envers ce pays, hein. Même comme j'y allais de temps en temps, là, moi, suite aux derniers événements racistes survenus dans ce pays, avec particulièrement l'agonie de George Floyd, c'est vraiment sidérant et délirant. Donc, moi, j'ai beaucoup perdu d'estime envers le pays de l'oncle Sam. Mais quand j'étais au Cameroun, il y a de cela presque 9 ans, là, j'avais beaucoup d'estime envers ce grand pays-là. Donc ça prouve que les mentalités, la culture, depuis le combat de Martin Luther King, n'ont pas évolué, malheureusement. Mais déjà, je suis content d'être au Canada. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas le racisme ici, mais ce n'est pas comme vraiment aux États-Unis. Vraiment, aux États-Unis, vraiment, c'est carrément la débauche. Merci.
Les violences policières, qui semblent finalement, c'est à ça que fait allusion cet auditeur, Georges, au Canada, qui semblent difficiles à endiguer, même si Joe Biden, avec Kamala Harris, vice-présidente, qui incarne la diversité, femme afro-descendante d'origine indienne, etc., et de plusieurs secrétaires d'État qui incarnent le melting pot, est-ce que ça peut contrebalancer la réalité quotidienne des violences policières?
Alors ça, déjà, c'est un problème qui se réglera au niveau municipal. Parce que la police, c'est quelque chose de municipal. C'est pas au niveau des États et c'est encore moins au niveau de l'État fédéral. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'on a une classe moyenne noire qui se développe depuis les années 60. Et le grand symbole du rêve américain pour les Noirs, c'est pas la Californie, c'est plutôt Atlanta. Atlanta est depuis les années 70 considérée comme la Mecque noire aux États-Unis. Et on a de plus en plus une classe moyenne supérieure, une bourgeoisie noire qui s'installe là-bas. Il y a l'espèce de nouvel Hollywood là-bas. Ça fait partie du rêve américain qui est plus spécifique aux Noirs. Là, Atlanta, l'immigration est 90% noire, qui vient des autres États, des États du Nord en particulier. Et on a parlé beaucoup des aspects négatifs, mais un des aspects positifs, c'est la possibilité de création d'entreprises, par exemple, qui est beaucoup plus facile que dans d'autres pays, à commencer par la France. Donc on a beaucoup moins de barrières à créer quelque chose. Après, ça ne marchera pas forcément, mais ça permet de tenter quelque chose.
Alors, on parle beaucoup depuis quelques années du wokisme, hein, finalement, de ces revendications, notamment dans les universités, d'étudiants issus de la diversité qui réclament maintenant une autre vision, une autre façon d'enseigner. En France, il y a des intellectuels qui relancent régulièrement leur crainte de l'américanisation du débat public, c'est-à-dire qu'ils font finalement allusion au politiquement correct. Qu'en est-il dans la réalité? Et est-ce que, finalement, c'est quelque chose qui peut servir le rêve américain dans toute sa diversité, ou au contraire l'affaiblir?
Ça dépendra, ça risque surtout de diviser, parce qu'en fait le mouvement contre ces tendances-là est assez prodigieux, et c'est en partie ce qui explique la force et la persistance du vote Trump. Si c'était pas Trump, ce serait probablement quelqu'un d'autre, mais il y a ce qu'on appelle en sciences politiques le white backlash, le retour de bâton blanc, qui en fait s'offusque du fait que tout mettre sur le dos des blancs qui sont le problème de l'Amérique, etc., ça froisse, et c'est une vision parfois trop caricaturée. Il y a des gens qui disent, je vois pas pourquoi moi je serais considéré comme coupable, alors j'ai pas eu d'esclaves, etc., et je ne suis pas raciste, et donc beaucoup de gens, notamment d'électeurs républicains qui ont voté Obama, considèrent que c'est une exagération. Le problème, c'est quand on confond l'histoire, la discipline historique, scientifique, et le militantisme. Et c'est ça aussi le problème, c'est que la ligne est souvent assez ténue et que certains font du militantisme sous couvert de faire de l'histoire.
Ouais. Cette fracture-là, elle est plus profonde qu'on peut l'imaginer vu de l'extérieur dans l'Amérique.
Elle est extrêmement profonde parce que les formes de radicalisation d'un côté entraînent des radicalisations de l'autre, et tout ça entraîne une forme de polarisation. On ne s'entend plus, on ne se parle plus, on ne se comprend plus. Et le problème, c'est que plus ce phénomène s'accentue, plus il s'auto-nourrit. Et donc la polarisation continue.
Mais ce n'est pas propre à l'Amérique, ça. Cette radicalisation, on ne se parle plus, on ne se comprend plus, sauf par écran interposé, ce qui limite évidemment beaucoup les discussions par rapport à la vraie vie. Ce n'est pas propre à l'Amérique. C'est le monde d'Internet.
Oui, alors est-ce que c'est probablement accentué par Internet ? On le trouve de plus en plus en France également. Est-ce que c'est une américanisation de la société française ? Je ne suis pas certain. Mais c'est vrai que c'est accentué par les effets de bulle qu'on voit sur les réseaux sociaux et le fait qu'on reste un peu de plus en plus entre soi, qu'on tolère de moins en moins les avis divergents.
Alors, un débat public devenu compliqué aux États-Unis, qui est pourtant le pays qui incarne encore la liberté, où en est réellement la démocratie, depuis ce fameux jour où Trump a appelé ses partisans à refuser la victoire aux élections et la victoire de Joe Biden. Souvenez-vous, pour le monde entier, à ce moment-là, un mythe démocratique s'est effondré le 6 janvier dernier.
Nous exigeons de la part du Congrès qu'ils écartent tous les bulletins malhonnêtes. Je sais que nous allons désormais tous nous rendre jusqu'au bâtiment où se trouve le Congrès afin de faire preuve de patriotisme, afin de faire entendre nos voix. Nous allons voir aujourd'hui si les républicains sont prêts à soutenir l'intégrité des élections.
Voilà, et le résultat de ce discours, c'est que le 6 janvier, une foule de partisans extrémistes de Donald Trump envahissent le Congrès pour empêcher, on le rappelle, le Sénat de certifier les résultats du collège électoral, de valider la victoire de Biden. C'est l'aboutissement d'une présidence tumultueuse qui a fini par fracturer le pays. Mais c'est aussi un jour de honte internationale pour les États-Unis et sa démocratie foulée aux pieds.
Oui, mais le revers de cette médaille, enfin l'autre côté de cette médaille, c'est que finalement, un peu comme le Watergate qui a été une source de honte nationale et internationale, finalement les institutions ont tenu. C'est quand même ça qu'il faut retenir, c'est que malgré cette attaque-là, les institutions ont tenu. Pour combien de temps ? C'est aussi la question qui se pose à cause des réformes qui sont en train de s'opérer au sein des États. Et donc, c'est là qu'il faut bien voir qu'il y a un niveau fédéral et un niveau fédéré au niveau des États, et que l'affaiblissement de la démocratie se fait essentiellement au niveau des États, qu'il avait déjà commencé bien avant Trump, qu'il se poursuivra après Trump. Les questions de filtrage des électeurs, qui peut voter, qui ne peut pas voter, qui se retrouve rayé des listes électorales.
Les minorités,
les découpages de circonscription plus ou moins partisan, c'est déjà des choses qui se produisaient depuis bien longtemps, surtout côté républicain, mais les démocrates ne sont pas exempts de ça. C'est de bonne guerre, mais ça se fait au niveau des États, et le niveau fédéral a du mal à réguler ça. Soit elle ne veut pas, soit elle n'y arrive pas.
L'argument des républicains, c'est de rendre les élections plus sûres. Les rendre plus sûres à leurs yeux, c'est évidemment d'éliminer certains votes des minorités.
Alors ça dépend, parce qu'il y a un certain nombre de simplifications un peu partisanes qui ont été faites. Par exemple, il y a un certain nombre de revendications des Républicains qui sont rejetées farouchement par les démocrates et qui en réalité sont en vigueur dans le Connecticut, qui est un État qui est très démocrate. Voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont un petit peu incohérentes à cause du degré de polarisation. Peut-être qu'une une façon un petit peu adulte et constructive de voir les choses, c'est de dire ok, on va essayer de rendre les élections plus sûres, mais on va vraiment discuter, on va arrêter les postures partisanes et on va voir comment on peut faire avancer ce dossier-là, plutôt que de dire non, tout ce que vous proposez est nul et non avenu, et de l'autre côté, même chose. Donc comme on ne se parle pas, on n'avance pas. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui pourraient avancer dans de bonnes intelligences sur un certain nombre de procédures qui ont lieu ici et là, et l'exemple des différents États permet d'avoir des exemples de bonnes pratiques, de ce qui marche et de ce qui ne marche pas.
C'est pas le cas au Texas, hein, on vient de le voir depuis novembre.
Il y a plusieurs cas. Il y a la Géorgie, il y a le Texas, il y a l'Arizona qui aussi veut changer sa façon de procéder aux élections. Il y a aucun État où ça se passe toujours parfaitement, mais la plupart des États, ça se passe quand même plutôt bien. On a vu par exemple les primaires démocrates en Géorgie en juin 2020. C'était un chaos absolu. On pouvait être très très inquiet pour novembre, et finalement en novembre, ça s'est très bien passé.
Alors vous restez bien sûr avec nous, Lorik Enton. On continue de réfléchir, de voir où en est ce fameux rêve américain un an après la victoire de Joe Biden. Et vous pouvez bien sûr nous appeler, les voisins et les voisines, pour nous dire comment est incarné à vos yeux, de là où vous habitez, ce rêve américain. Ça peut être la consommation avec le e-commerce, l'innovation technologique, le soft power, la domination culturelle. On va en parler aussi avec nos correspondants en Chine et au Brésil. Vous nous appelez au
33-7-64-45-51-41. I'm a bigger boss than Rick Ross. Always winning, nigga, get lost. It's the warlord, bring the voodoo. When I bail through, it's crazy like Bellevue. What they tell you, leave that boy alone. Like Home Alone, yeah. Fuck a skull and bone. Arrest the president, you got the evidence. That nigga is Russian intelligence. When it rains, it pours. Did you know the new white was orange? Boy, you're showing your horns. They trying to replace my halo with thorns. You so basic with your vape stick. Let's go ape shit in the matrix. Arrest the president, arrest the president, arrest the president. You got the evidence. Arrest the president, arrest the president, arrest the president. You got the evidence. I took back my ice and all black tonight. That's right, some niggas gotta sacrifice. Not a criminal, no, I'm a seminal. Yeah. I was free once, now I'm clinical. Crazy. You so technical, this was Mexico. Now everywhere I go is owned by Texaco. Fuck them and the rest of you. Yeah. I turn a fruit into a vegetable. I'ma roll with the aliens. Man, fuck these homo sapiens. They don't really wanna make friends. All they want is a Mercedes Benz. All they want is they dividends and decibels. Fuck these citizens. They'll treat us like hooligans. Throw him in, they don't care what school he in. These people don't play fair. It ain't even fair at the state fair. Give a young nigga gray hair. That's why I'm here. Make your ass lay there. Punk, you better stay there. Close your fucking eyes like it's daycare. Make myself clearer than Shakespeare. I'm here to take money, even fake hair. So desperate is what I'm left with. For the record, you affected. Who you elected is so septic. So full of shit, I can't accept it.
Ice Cube, Arrest the President. Vous vous souvenez de cette chanson, Lorik Enton, historien spécialiste des États-Unis, une chanson anti-Trump, c'était en 2018, il y en a eu beaucoup d'autres.
Ah oui, Trump, on ne peut pas dire qu'il a pas inspiré tous les artistes de la folk au rap. Oui, là, il y a eu un vivier. Hein.
Vous avez publié l'année dernière Le rêve américain, les preuves de Donald Trump. Et aujourd'hui, on s'interroge où en est ce rêve américain un an après la victoire de Joe Biden. Vous pouvez nous appeler au 33 7 64 45 51 41. Je vous lis le message d'Abbas qui a 36 ans, qui est enseignant à Cotonou au Bénin. Il nous dit les États-Unis ne sont pas plus ni moins pourris que les autres pays du monde. Je rêve d'y vivre parce que c'est un pays plus ouvert et je suis passionné de science, de technologie. Kwamu est à Yaoundé, au Cameroun. Autrefois, l'Amérique me faisait rêver à cause des stars comme Michael Jackson, Beyoncé, ses acteurs Sylvester Stallone, ouais, ça date hein, ça quand même, et ses grands films comme Rambo, Passager 57. Mais aujourd'hui, avec la pléthore de séries télévisées chez nous, produites ici, l'Amérique finalement perd un peu de son prestige. Alors, l'Amérique fait-elle rêver? On va maintenant poser la question à notre envoyé spécial permanent en Chine. Il est en ligne avec nous. Bonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour Emmanuel, bonjour à vos invités.
On a beaucoup parlé de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine sous le mandat de Donald Trump, mais sous Joe Biden, les deux premières puissances sont loin d'être réconciliées, Stéphane.
Oui, on peut dire ça. La Chine reste un rival pour la Maison-Blanche, et si les échanges sont réguliers entre les diplomates, on est très loin, effectivement, Emmanuel, d'avoir retrouvé ce niveau des relations de l'époque d'Obama. Il y a eu l'effet Trump, il y a aussi, côté chinois, une fermeture de la Chine avec le Covid, mais pas seulement. On assiste ici aussi à une montée du nationalisme, ce qui fait que c'est plus compliqué, je pense notamment aux jeunes Chinois, d'aller étudier aux États-Unis, par exemple. Malgré cela, les États-Unis, ou plutôt la culture américaine, hein, je pense par exemple au basket, continue de faire rêver d'une certaine manière. La NBA, certaines de ces retransmissions interdites en Chine à l'époque de Trump, cela n'empêche pas des millions de Chinois de pratiquer ici ce sport et de s'acheter par exemple des chaussures avec les joueurs, leur idole américaine.
Alors justement, là on est en plein dans le sujet du soft power américain. On va écouter un reportage que vous avez réalisé avec Sophia Wang, l'assistante du bureau de RFI à Pékin, au tout nouveau parc Universal Studio de Pékin et qui fait carton plein.
Des coups de pelle pour déblayer les premières neiges de l'hiver. Malgré le vent glacé, de nombreux visiteurs continuent d'affluer au parc Universal Studio de Pékin, cinquième du nom dans le monde, troisième en Asie. Madame Wang vient de Shanghai, elle en a visité quatre. Elle n'est pas déçue du voyage.
Pour moi, le parc de Pékin est entre celui de Los Angeles et celui d'Osaka. C'est définitivement mieux et plus grand qu'à Singapour. Pour autant, je ne pense pas envoyer mon fils étudier aux États-Unis. Je l'ai emmené cinq fois en voyage là-bas, juste pour qu'il voit. Mais la Chine se développe plus vite aujourd'hui. Vaut mieux rester ici pour ses études.
Pensez-vous envoyer vos enfants faire des études aux États-Unis? Nous avons posé la question aux visiteurs croisés à la sortie des attractions. Cette grand-mère de 74 ans accompagne son petit-fils, 9 ans.
Moi, j'ai bien aimé Harry Potter.
Nous sommes tous allés à Disney. Et c'est un peu pareil ici. Le parc est très bien. Mais bon, tu veux aller aux États-Unis? La Chine, c'est très bien.
Je ne veux pas y aller si tu ne viens pas. Et la situation épidémique est très mauvaise là-bas.
On est ouvert d'esprit et le peuple américain est gentil. Mais la Chine aujourd'hui se développe très bien aussi.
L'ouverture fin septembre après 20 ans de négociations et de travaux dans une Chine aux frontières très filtrées depuis le début de la pandémie a surpris le public. Les billets se sont arrachés en 30 minutes. Malgré un premier prix d'entrée à près de 60 euros, ce jeune homme voulait voir les héros de ses films américains préférés.
J'ai adoré les personnages de Transformers en 5D. C'est très réussi. Pour la culture américaine, en revanche, mon truc, c'est le cinéma. Je ne sais pas si j'en verrai mes enfants. Il n'y a que les films qui m'intéressent.
Malgré la crise sanitaire, la Chine reste pour Hollywood le plus grand marché cinématographique au monde. Le parc, comme les écrans, attire des Chinois qui ne sortent plus du pays, même si Madame Wang aimerait un jour retourner aux États-Unis.
Je pense que l'Amérique est toujours attrayante. Les Américains semblent heureux. Même les caissières de supermarchés, bien que ce soit un travail ennuyeux, mâchent du chewing-gum en fredonnant des chansons. Oui, ils ont l'air heureux avec rien. Ils ont une vie sans contrainte.
Et Universal Studios espère attirer 12 millions de visiteurs à Pékin.
Lorik Henton, être heureux en mâchant du chewing-gum, c'est le rêve américain.
Et en chantant des chansons.
Et en chantant des chansons. L'Amérique, finalement, rien de plus qu'un produit culturel comme un autre.
Un producteur de produits culturels, ça c'est indéniable, ça fait un moment que ça dure, hein. La guerre froide a été un grand pourvoyeur de rêves sur écran notamment, ça continue avec des moyens qui sont un peu différents, c'est-à-dire que les écrans sont plus petits et ils tiennent dans la poche, mais c'est vrai que Netflix par exemple s'est imposé comme un distributeur de contenu très prescripteur, et les épigones, Disney+, etc., puisqu'on était dans dans Disney, c'est vrai que c'est extrêmement prescripteur et que de plus en plus, les créateurs vont vers ces plateformes directement, Amazon également, hein, que vers le grand écran.
Netflix, vous en parliez, qui occupe près d'un quart de la bande passante de l'Internet mondial quand même. On revient vers vous, Stéphane Lagarde, à Pékin. Vous nous avez parlé de la guerre commerciale sino-américaine qui a des conséquences sur l'image des États-Unis en Chine. Même chose pour ce qui est des visas étudiants qui ont été réduits pendant la crise sanitaire.
Oui, c'est ça, Emmanuel. La Chine reste la principale source d'étudiants internationaux aux États-Unis avec plus de 380 000 étudiants chinois sur le sol américain l'année dernière. Mais la situation s'est détériorée pendant la crise Covid. Hein. Pékin a qualifié la gestion des visas étudiants chinois par l'administration Trump de toxique. Mais progressivement, donc les choses sont en train de revenir dans l'ordre. Il y a eu des visas attribués depuis la dernière rentrée. Nous avons rencontré Xing Beiyuan. Elle aimerait bien, cette étudiante, aller plus tard dans une université américaine étudier le graphisme, nous a-t-elle dit.
Alors, on écoute cette étudiante en quatrième année à l'Université des communications de Chine.
Quand j'étais plus jeune, j'étais plus positive. Je pensais qu'il y avait trop de monde en Chine et qu'on était tout le temps occupés. Peut-être aussi que j'étais influencée par des proches qui pensaient que la vie à l'étranger était meilleure. Maintenant, je sais que tous les pays ont leurs défauts. J'aimerais étudier aux États-Unis pour la liberté d'expression dans l'art. Je pense que cela m'apportera beaucoup dans mon travail et sur le plan personnel. Sinon, je n'aime pas la politique et la vie sociale est mieux ici. Pour ma génération, c'est plus dur de partir. Les étudiants qui se sont spécialisés dans l'ingénierie aérospatiale ou les nouvelles technologies, et notamment tout ce qui touche aux militaires, ont peu de chances désormais de faire leurs études aux États-Unis.
Les États-Unis qui continuent de surveiller de près les étudiants de troisième cycle dans les hautes technologies ou les domaines qui sont considérés comme stratégiques par peur de l'espionnage industriel. Côté chinois, quelle est la réponse des autorités, Stéphane Lagarde ?
Ben, il y a aussi moins d'étudiants étrangers en Chine, ce qui évidemment contribue à éloigner un peu les jeunes des deux pays. Donc le gouvernement chinois, en tout cas, on a eu l'impression ces derniers mois, semble s'éloigner de la culture occidentale et en particulier de la culture américaine, que les autorités jugent ici dangereux. Esprit. Les élèves étrangers ne peuvent plus aller dans une école chinoise en dehors des écoles internationales. Même chose à l'université où les étudiants chinois et étrangers continuent de ne pas dormir dans les mêmes dortoirs. Et puis il y a comme aux États-Unis et en Europe, une montée du nationalisme, je vous l'ai dit, chez certains qui boycottent donc aujourd'hui la culture occidentale et surtout anglo-saxonne, même si ça reste très minoritaire.
Oui. Merci Stéphane Lagarde, je le redis parce que la ligne n'était pas parfaite, la ligne téléphonique. Les étudiants étrangers, les étudiants chinois ne partagent pas les mêmes dortoirs, les mêmes bâtiments dans les campus universitaires. Stéphane, avant de vous quitter, et puisqu'on parlait de nationalisme en Chine, on écoute un extrait d'un clip de propagande diffusé en anglais par l'agence de presse officielle Chine Nouvelle. C'est une vidéo qui parle de la différence de traitement de la pandémie entre la Chine et les États-Unis, où le virus a fait beaucoup plus de morts. C'est de la propagande grossière, mais ça montre aussi que sur la pandémie aussi, l'image des États-Unis est attaquée. After COVID broke out, Donald Trump once vowed, it is just a normal flu, what's the fuss about? Kept attending fancy parties and my senses came. On the confirmed cases list, I saw the goer's name. It was never just a flu. Lorik Henton, alors on parlait des étudiants chinois dans les campus américains. Vous souhaitiez rebondir là-dessus? Et puis évidemment, on va parler aussi de la pandémie.
Ça a fait beaucoup de mal. De toute façon, la présidence Trump avait réduit le flux d'étudiants internationaux, notamment venant des pays musulmans, donc d'Afrique, du Moyen-Orient, etc.
Dans la guerre contre le terrorisme.
Oui, et puis parce qu'il y avait de plus en plus une crainte de... D'être mal vu, d'être, etc. Et bon, la crise du Covid a fait le reste. Pour les universités, les étudiants étrangers, c'est pas qu'aux États-Unis, c'est une manne financière assez extrêmement, enfin conséquente.
On et peut... donc les 380 000 Chinois, évidemment, en première ligne.
Oui, et alors il y en a beaucoup qui historiquement restaient en fait aux États-Unis, et notamment en Californie, mais aussi dans pas mal d'autres villes, Phoenix, Atlanta, Houston, etc., qui restaient et qui alimentaient cette immigration asiatique qui est extrêmement dynamique aux États-Unis. Là, on est plutôt dans des optiques d'obtenir son diplôme et de retourner au pays pour servir le développement économique et intellectuel du pays. Donc c'est un peu une autre dynamique. Mais c'est vrai qu'il va falloir un certain temps pour que on remette les choses un petit peu dans, à l'endroit par rapport à ce qui avait cours avant. Mais l'essor du nationalisme en Chine fait aussi qu'il n'y a pas que le climat aux États-Unis, le climat politique, mais aussi le climat économique et social, qui fait qu'il va y avoir des différences.
Les États-Unis me font toujours rêver. C'est un message de Juan José qui est à Buenos Aires, en Argentine. Des personnalités comme Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk sont une source d'inspiration et surtout pour moi d'espoir pour le monde entier. Et bien justement, écoutez Steve Jobs en 2007 lorsqu'il présente au monde entier le premier iPhone.
We're introducing three revolutionary products of this class.
Nous vous présentons trois produits révolutionnaires de ce niveau.
The first one.
Le premier, c'est un iPod avec un écran large et la technologie Touch Control.
The second.
Le deuxième, c'est un téléphone portable révolutionnaire.
And the third.
Et le troisième, c'est le dernier cri des appareils de navigation Internet.
These are not three separate devices.
Ce ne sont pas trois appareils différents. C'est un seul appareil.
And we are calling it iPhone.
Et on va l'appeler iPhone.
Today, Apple is
Aujourd'hui,
going to reinvent
Apple va réinventer le téléphone.
Apple va réinventer le téléphone. Apple a surtout bouleversé effectivement notre vie quotidienne avec le smartphone. Les smartphones aujourd'hui, par exemple, sur le continent africain, sont majoritairement chinois. Est-ce que l'Amérique est largement devancée maintenant par la Chine ? TikTok est devenu donc réseau social chinois le plus utilisé par les jeunes dans le monde entier. Finalement, où est-ce qu'on en est de ce rêve américain technologique ?
Ce sont toujours les Américains qui donnent le ton, qui sont ensuite copiés, mais c'est pas nouveau. Dans les années 70 et 80, on accusait beaucoup le Japon de ne pas innover, mais de seulement copier, de faire des appareils ou des voitures qui étaient en fait la même chose, mais moins chères. Ça a été la grande accusation contre le Japon à l'époque. Maintenant, c'est la Chine qui fait des smartphones aussi, mais qui sont moins chers, donc qui sont plus abordables, donc qui marchent mieux dans certaines catégories. Mais les États-Unis produisent des smartphones qui marchent quand même plutôt pas mal. Apple, ça marche plutôt pas mal. Et il ne faut pas oublier que ça s'est ouvert également à la Corée du Sud, puisque Samsung est quand même un acteur majeur. Donc en fait, ça s'est ouvert. C'est pas seulement quelque chose de binaire avec les Américains qui sont en perte de vitesse ou pas en perte de vitesse. Les Américains, en fait, pendant la guerre froide, le paradoxe, c'est qu'en gagnant la guerre froide, un petit peu par défaut avec l'effondrement de l'URSS, on fait le triomphe du capitalisme, donc de la libre concurrence. Et cette libre concurrence fait que leur victoire là-dedans fait qu'ils déclinent, parce qu'ils déclinent en part de marché. Mais en fait, leur déclin, c'est leur victoire.
Oui, mais alors est-ce que là, on a l'impression qu'il faudrait que l'Amérique réinvente encore autre chose pour rester au niveau ?
Il réinvente un certain nombre de choses un petit peu en permanence. Quand on voit, par exemple, on parlait de Netflix, Disney+, Amazon, ce genre de choses. Amazon, au début, ils vendaient des livres. Maintenant, ils vendent aussi des livres accessoirement, mais enfin, ils vendent quand même des tas d'autres choses. Et l'histoire d'Amazon, c'est pas non plus 150 ans. Donc, c'est vrai qu'il y a une réinvention qui est un petit peu permanente et qui domine un peu par défaut, d'une certaine manière, les différents marchés mondiaux. Mais pas par la force de la conviction.
Alors, j'ai lu beaucoup de messages d'auditeurs sur le continent africain. Ça pose quand même toute la question du rêve américain en termes de migration, quand les gens habitent dans des pays où la vie est difficile. Où en est le rêve américain au Brésil ? Eh bien, justement, on est en ligne avec notre correspondante à Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino. Bonjour, Sarah.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Sarah, le premier indice qui montre que les États-Unis font encore rêver les Brésiliens, c'est là aussi, comme les messages que je lisais d'auditeurs en Afrique, c'est qu'ils continuent de vouloir y émigrer.
Oui, d'ailleurs, les candidats à l'émigration aux États-Unis se rassemblent souvent sur des groupes WhatsApp intitulés « Ciao Brasil » ou « Até logo Brasil »,« À bientôt Brésil », pour échanger des conseils et essayer d'entrer légalement aux États-Unis. En un an, près de 57 000 Brésiliens migrants illégaux ont été détenus à la frontière avec le Mexique. Car malgré la pandémie et la dévalorisation du réal face au dollar, Eh bien, la crise économique et le fort taux de chômage poussent les Brésiliens à chercher une vie meilleure ailleurs. Alors, tout ça peut s'expliquer aussi par le complexe do vira-lata, le complexe du bâtard, comme on l'appelle familièrement ici. C'est cette idée, très ancrée dans la société brésilienne, que tout ce qui vient de l'étranger, Occident, comme l'Europe ou les États-Unis, est supérieur. Parfois, avoir étudié ou travaillé aux États-Unis, même si ce n'est pas dans les meilleures universités, impose le respect. Le fils de Jair Bolsonaro, Eduardo, alors qu'il était candidat au poste d'ambassadeur aux États-Unis, avait déclaré très solennellement « J'ai déjà fait frire des hamburgers là-bas » pour témoigner de son expérience du pays.
Oui, alors évidemment, si ça se résume à la cuisine, le président Jair Bolsonaro lui-même entretient ce mythe ces dernières années.
Oui, s'il a été très vite surnommé de Trump tropical, il s'est emparé de cette comparaison et s'est vanté d'avoir une relation spéciale avec la famille Trump. En conséquence, on a vu de plus en plus de drapeaux américains dans les manifestations pro-Bolsonaro, avec par exemple des t-shirts « Make Brazil Great Again ». Sauf qu'entre les deux chefs d'État, c'était plutôt un amour vache, en tout cas non réciproque, puisque Donald Trump a durci les conditions d'obtention de visa et fermé les frontières aux Brésiliens pendant la pandémie. Et c'est seulement maintenant, avec Joe Biden, que les touristes brésiliens vaccinés vont pouvoir de nouveau voyager aux États-Unis.
Et on observe des terrains, ceci dit, de résistance au sein de la société brésilienne, notamment dans le secteur culturel, musical précisément.
Et oui, parce qu'à l'inverse du cinéma, où les blockbusters américains ont encore la première place au Brésil, c'est différent pour la musique. Et depuis longtemps, si on regarde les top 10 ou encore si on écoute quelques stations de radio au hasard, on se rend vite compte que la musique brésilienne est omniprésente. On ne compte plus le nombre de styles de musique différents, du très populaire sertanejo aux sortes de country brésiliennes, à la fameuse samba, la MPB, musique populaire brésilienne, qui rassemble des grands noms comme Caetano Veloso ou Chico Buarque, ou encore la bossa nova, le funk brésilien. Bref, les Brésiliens n'ont rien à envier à la musique américaine, et c'est une industrie où il est encore difficile de s'insérer pour les Américains.
Merci beaucoup Sarah Cozzolino en direct de Rio. Laurie Kenton, on arrive bientôt au terme de cette émission. Il y a cette désirabilité de l'Amérique, en témoignent les demandes de visa, mais aussi des migrants qui sont violemment refoulés aux frontières de l'Amérique. Alors est-ce qu'elle va continuer à faire rêver, essentiellement sur des acquis de domination culturelle, technologique, de réussite économique, de possibilités, comme le disaient certains de nos auditeurs, ou est-ce qu'elle va se réinventer, reprendre la main sur autre chose ?
Alors, ce qu'on voit depuis plus d'un siècle, c'est que quelle que soit la situation aux États-Unis, quel que soit le gouvernement, quelle que soit la politique migratoire, dans les années 20, c'était complètement fermé, il y a toujours une volonté de migrer légalement ou illégalement. Ça, c'est quelque chose qui est une tendance lourde et qui va, a priori, perdurer. Je vois pourquoi ça s'arrêterait. Ce qu'on voit, donc ça c'est au niveau de l'immigration, au niveau du tourisme, on a vu que là il y avait un véritable appel d'air. Et le tourisme est quand même assez dissocié du contexte politique. Je connais personne qui a refusé d'aller aux États-Unis parce que c'était le pays de Trump pour aller faire du tourisme dans les parcs de l'Ouest, etc. Donc bon voilà, il y a une dissociation. Et ensuite, il y a le rayonnement à l'international, quel que soit le gouvernement, l'essaimage culturel via les plateformes ou via les canaux normaux de cinéma, musique, etc., ça reste quel que soit le gouvernement. À la limite, c'est même parfois plus dynamique quand c'est un gouvernement impopulaire dans les milieux culturels comme le gouvernement Trump ou le gouvernement Bush à une époque. Il y a une forme de motivation culturelle qui fait que le rayonnement américain se fait pratiquement en dépit de l'administration en place. Et c'est vrai que Trump a été un formidable catalyseur au niveau de la production culturelle de ce point de vue-là.
Un ruissellement, mais en même temps, un ruissellement qui finalement, paradoxalement, est freiné par les nouvelles technologies qui permettent de créer des contenus culturels partout maintenant, qui ressemblent aux peuples eux-mêmes.
C'est vrai également, et c'est et en fait ce qui est important, c'est que les comparaisons historiques que j'évoquais tout à l'heure sont à relativiser à l'aune des ruptures technologiques que l'on voit. Et c'est vrai que entre la perception des États-Unis dans les années 80-90 et les perceptions des États-Unis actuellement, le filtre d'Internet a changé énormément de choses dans l'immédiateté. Les États-Unis étaient très lointains dans le temps et dans l'espace. On allait dans le futur quand on allait aux États-Unis dans les années 80. Maintenant, les États-Unis sont beaucoup plus à portée de main puisqu'on les a dans notre poche, sur nos téléphones.
Le rêve américain à portée de smartphones, finalement, rendrait l'Amérique moins désirable pour de vrai ?
Ben, on n'a plus besoin de. On ne rêve plus, par exemple, à la NBA ou au dernier développement dans la country, parce que on a ça. On peut écouter des radios américaines, regarder la télé américaine beaucoup plus facilement. Donc, on a accès à ce monde-là sans avoir à se déplacer d'une certaine manière. Et évidemment, ce qu'on n'a pas, c'est les grands espaces, les routes, les parcs, etc. Pour ça, il faut quand même se déplacer.
Ouais, même si un match de la NBA, évidemment, en vrai, ça reste pas mal. Merci beaucoup, Laurie Kenton. Historien à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Vous avez publié « Le rêve américain à l'épreuve de Donald Trump » et c'est aux éditions Vendémiaire. C'était en 2020. Oui. Et dans quelques instants, si j'ai encore de la voix, ça sera le journal juste après Horus.
Your head up, let them vilify. You know damn well they just want you to line up. Keep your head up, let them vilify. You know damn well they just want you to line up. Keep your head up, let them vilify. You know damn well they just want you to line up. Keep your head up, let them vilify. You know damn well they just want you to line up. Ni pis comment faut dire, c'est ok, bloqué de mon autre mieux droit sous main. Se moquer ou calquer tout le monde n'est pas comme le pas valable. La quoi faut expliquer à moi. Jamais la qui demande pas. Ta marin va causer vie, jambes rosa. Céline a droit, pousse d'accord. Les pousses à mirotte, pas aux accords. 1000 et 7000 des vieux ou tête. Si vous y'aime pas la mienne, pas la peine causer. Si vous rouvrez votre gueule, les capons vous dire, risque à poudre les capons qui connaît. But I won't bite ya. Unless you ask me to. Even if I did, it will not contaminate ya. Be your head up, let them vilify. Damn well, they just want you to line up. Keep your head up, let them vilify. You know damn well, they just want you to line up. Keep your head up, let them vilify. You know damn well, they just want you to line up. Keep your head up, let them vilify. You know damn well, they just want you to.
C'est comme une seconde famille.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Cette idée de voisinage, cette idée de proximité.
Tout ça, ce sont les voisins.
C'est vraiment...
Se donner des occasions de parler, de se parler.
Sans se voir forcément, et donc de voyager.
RFI.
Et la planète se parle.